Bonjour Rudy.
Bonjour Christophe, comment ça va?
Très très bien, et toi?
Ça va? Bah, on va commencer ton deuxième podcast pour Super Physique.
Eh bien écoute, super, déjà qu'il y en ait un deuxième, ça, il y a eu un peu d'écoute.
Bah, t'as pas vu toutes les nouvelles questions qu'on a eues là?
Ah si, j'ai même imprimé la feuille pour pas qu'on les oublie, tu vois.
T'as pris une feuille, hein?
Exactement.
Bah, alors on va commencer alors dans l'ordre.
Ouais.
Alors, t'as Impalette qui demande, est-ce que trop d'étirements tue l'étirement?
Excellente question, une palède. Alors, déjà, ce qui est intéressant avec les étirements, c'est que, effectivement, quand tu t'étires énormément, tu t'aperçois que, déjà, tu as atteint des plateaux, un peu comme en musculation, en endurance, etc. Et la vraie question à se poser, c'est est-ce qu'on a réellement la nécessité d'avoir toutes les articulations parfaitement souples, ou est-ce qu'on doit garder, particulièrement dans le domaine de la performance ou de la musculation, etc., une certaine raideur musculaire qui va pouvoir nous aider. Alors, je crois qu'il n'y a pas réellement de réponse figée. Effectivement, je pense que trop d'étirements tue l'étirement, particulièrement dans des disciplines où il y a une demande d'explosivité qui est nécessaire. On le voit par exemple à partir du moment où il y a trop de souplesse, les structures qui trinquent le plus, ce sont les tendons. Et bon, pour un danseur, un gymnaste, un mec qui fait de l'athlétisme, ou même voilà, quelqu'un qui fait de la muscu mais qui cherche vraiment à énormément s'étirer. Autant le muscle se répare assez rapidement et facilement, autant les blessures tendineuses, les inflammations tendineuses, c'est toujours le début des emmerdes, quoi.
Mais est-ce que tu penses pas, là, c'est une question qui me vient, est-ce que trop d'étirements, comme on sait que ça tire sur les muscles et que ça produit des micro-traumatismes, est-ce que justement trop d'étirements ne empêche pas de récupérer?
Absolument, je suis entièrement d'accord avec toi, Rudy. C'est pour ça que après une séance difficile, une séance assez traumatisante au niveau des tissus, moi j'ai toujours recommandé de plutôt favoriser un travail d'automassage plutôt que des étirements, parce que justement, dans la mesure où on a provoqué des micro-lésions avec soit des charges très lourdes, soit des vitesses de contraction élevées, rajouter en fait un traumatisme important sur des tissus qui sont déjà lésés, ben c'est encore une fois jouer avec le diable, quoi.
Donc, on va continuer avec le petit Impalette qui a une question.
Il est grand, une palette, je crois qu'il est grand, il ne faut pas dire qu'il est petit.
Voilà, il pose une question un peu bizarre. Donc, dans ton livre Sculpter vos abdos,
Ouais.
tu parles des stratégies nutritionnelles concernant l'abandon des glucides le soir, après
Ouais.
19h.
Oui.
Donc, lui, il doit travailler de nuit, parce qu'il demande, travaillant de nuit, est-ce que cette stratégie s'applique aussi?
Eh ben, disons une palette que la grosse problématique, c'est que bien évidemment que quand tu as un rythme de vie normal qui est basé sur un rythme circadien, c'est-à-dire jour-nuit, et particulièrement en vivant le jour, tu as tout intérêt à limiter ta prise de glucides après 19h, parce que vu que tu vas aller dormir, tu vas dépenser moins de calories, ton insuline va être moins bien utilisée, tu vas être moins bien sensible à l'insuline, donc du coup, ben, tu vas pas forcément, tu vas plus favoriser des prises de gras. Dans ton cas, je dirais que si tu veux avoir de l'énergie, et comme tout ton rythme de vie est complètement décalé, ben ça ne ce genre de recommandation ne s'adresse pas à toi, quoi. Il faut que tu arrêtes de manger du glucide juste avant en fait d'aller faire ta nuit. Si ta nuit tu vas la faire à 6h du matin, ben c'est à partir, je sais pas moi, de 4h du matin qu'il faut que tu arrêtes de consommer des glucides. En tout cas, c'est ce que je ferai. C'est ce qu'on fait d'ailleurs quand on fait des voyages intercontinentaux. Et qu'on doit essayer en fait s'adapter lorsque en fait par exemple tu vas voyager vers les États-Unis où tu as 7 ou 8 heures de décalage horaire en positif. Si par exemple il est 20 heures en France à Los Angeles, il serait, je quelle heure, 14h, ça. Donc du coup, j'ai intérêt à éviter de manger des pâtes à 14h, ou même à lorsque j'arrive à LA, parce que justement, j'ai un risque de stockage qui va être beaucoup plus important.
Et donc il me parlait de déborder un peu sur la question, sur qu'est-ce qu'on pense la privation des glucides lors d'une sèche.
Ouais, il disait que enfin que nous deux, on était plutôt sur des variations de glucides.
Bah ouais, plutôt. J'aime pas. Ouais. Quand on mange plus, de toute façon, t'es mort, donc.
Exactement. Ben voilà, je pense que tu résumes bien la situation. À partir du moment où pendant une sèche, tu veux dépenser des calories, mais qu'en même temps pour continuer à t'entraîner et à maintenir ta masse musculaire, tu as la nécessité d'avoir de l'énergie. Bah, t'es obligé de garder des glucides.
Sans compter que quand tu manges pas de glucides, en plus, tout ton métabolisme se ralentit, et puis au final, tu brûles plus rien.
Absolument, je suis entièrement d'accord avec toi. Et c'est pour ça que, enfin, je connais pas tes stratégies nutritionnelles à toi, mais moi, que ce soit à titre perso ou avec les athlètes avec lesquels je bosse, dès qu'il y a besoin de perdre du poids, eh ben, je fais des variations sur les glucides.
Donc, ouais, bah, des rebonds suivant les...
Exactement.
Les périodes.
Voilà.
Ouais, parce que réduire à fond, j'ai déjà fait, tu finis, t'es légumisé, tu dors sur le canapé.
Ça.
et pour t'entraîner, c'est très très dur.
Exactement. Alors après, ce qui est intéressant aussi dans cette question, Rudy, c'est qu'il y a des gens qui réagissent plus ou moins bien à la privation de glucides. Mais bon, après, on rentre dans des individualités qui ne sont pas des généralités. Donc du coup, ben... Je garde le même conseil, c'est-à-dire cycler la prise de glucides avec des phases de rebond comme toi tu le fais, quoi.
Voilà, on avait un mec sur le site justement qui avait été obèse avant.
Oui.
Et qui justement supportait plus du tout les glucides, quoi. C'est un mec que même en prise de masse, il était à 1500 calories, quoi.
D'accord.
En fait, il était complètement déréglé. Donc c'est Nicolas D, pour ceux qui veulent regarder, dans la team Super Physique en Gold.
Ouais.
Donc lui, en fait, avait complètement déréglé par toute la prise de graisse qu'il avait fait.
D'accord.
Pendant des années, et en fait, après, il pouvait plus manger, quoi.
D'accord.
Je pense que toutes ces cellules graisseuses, en fait, avaient vraiment bousillé son métabolisme et...
Ouais.
Il était bien cuit.
Et il est revenu, quand même. Il a changé de physique, maintenant.
Ah ouais, bah, il est devenu super sec et tout, mais en fait, maintenant, quand il sèche, il a moins de 1000 calories, et puis quand il est en prise de masse, il est à 1500, quoi.
Sinon, il refait du gras, c'est ça
Bah ouais, tout de suite.
D'accord. Ah, mais tu vois, c'est intéressant. Comme quoi, chaque corps est différent, hein, d'où l'importance de parfois de se faire coacher quand on veut avoir des résultats plus satisfaisants que quand on s'entraîne tout seul.
Donc ensuite, on a une question de Domer Razus. Putain, il n'arrive pas. Hein. Bon, Jérôme, il s'appelle Jérôme. Donc, il s'appelle Jérôme en vrai. Donc,
d'accord.
Il veut des petits éclaircissements concernant la récupération. Comment gérer au mieux sa récupération tout en ayant un entraînement très soutenu? Un peu vague, mais...
Les réponses classiques, en ce qui me concerne, dans ma méthodologie de travail, c'est des automassages, favoriser une bonne hydratation post-effort, une prise de glucides et de protéines juste après l'effort, pour reconstituer les cellules de glycogène et en même temps pour apporter des acides aminés nécessaires à la reconstruction. Quelques étirements en fonction de ce qui a été fait, de l'intensité de l'entraînement. Bien penser à se reposer. Éventuellement, en fonction de l'âge qu'on a, utiliser des chaussettes de contention pour favoriser le retour veineux, particulièrement si on travaille les jambes ou si on fait des sports comme de l'athlétisme, etc. Qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre? Et puis, faire attention à la manière dont on mange, puisque ton alimentation va avoir un impact phénoménal sur la vitesse de récupération de l'organisme et dans ses capacités d'adaptation.
Donc moi, j'avais une question un peu qui découle de ça.
Oui.
C'est que j'ai un de mes élèves qui vient justement de m'en parler. Qu'est-ce que tu penses des glucides à prendre pendant l'entraînement et non plus après, en fait? Donc, je te résume vite fait le raisonnement. Si j'en prends pendant l'entraînement, en fait, j'évite la déflation en glycogène due à l'entraînement.
Oui.
Donc, en fait, je gagne une étape sur la récupération.
Ouais.
Donc, qu'est-ce que t'en penses?
Alors.
Là-dessus, tu serais plus à conseiller d'en prendre après et pas pendant?
Non. C'est Rudy, des protocoles alimentaires, il en existe plein. De plus en plus, on s'achemine vers une pré-collation riche en acides aminés, en protéines et en glucides, plus qu'une post-collation. Dans les sports d'endurance notamment, ça fait des années qu'on utilise des boissons énergétiques pendant l'effort, justement pour éviter la déplétion de glycogène et éviter que le 1 de ne plus avoir de glycogène pour l'effort et 2 que le système immunitaire ne s'effondre après l'effort et que les sportifs tombent malades. Donc c'est une stratégie qui paraît cohérente et intéressante à essayer. Après, tu sais, moi ce que j'ai appris, Rudy, c'est que les gens sont très différents, on est tous très différents les uns les autres. Il y a des recettes qui vont fonctionner pour certains et qui fonctionneront pas pour d'autres, et vice versa. Donc ça me paraît cohérent de prendre des glucides pendant l'effort. Moi perso, par exemple, ça m'arrive de temps en temps, quand je fais des séances assez intenses, de prendre une boisson qui est riche en acides aminés, tu vois, et en même temps avec des glucides pendant l'effort, quoi.
Ok. Voilà. Ensuite, on a une petite question de Nico. Alors, que penses-tu de la philosophie de Louis Simons, le créateur du Westside?
Sa philosophie, c'est une philosophie qui a abouti dans le développement de la force. Après, moi, qui prêche, si tu veux, de faire attention à son corps pour se préserver des blessures à long terme, je suis pas tout à fait d'accord, si tu veux, avec l'idéologie du gars. Mais bon, en matière de force, il a rien à redire, quoi. Il a développé un système qui est largement, qui a largement aidé plein de sportifs et plein de mecs qui font du powerlifting, de la force, à développer des performances hors normes. Aux États-Unis, quasiment tous les programmes d'entraînement en muscu sont très fortement influencé par son travail. À noter aussi que son propre travail à Louis Simons, il a été influencé par Verkhozansky, qui était un théoricien d'entraînement. Bref, moi je trouve qu'il y a des choses très intéressantes dans plein de systèmes. Je crois qu'il y a pas mal de questions sur le CrossFit.
C'est la question de qui suit.
Voilà, donc je pense pas qu'il y ait une approche qui soit pas bonne. C'est souvent la manière dont on la pratique, soit au niveau technique, soit au niveau de l'intensité, soit au niveau de la prise de conscience globale. Maintenant, les mecs du Westside, tu sais, si tu regardes autre chose que ce qui soulève, ils font tous d'un travail d'étirement, ils font tous des mobilisations articulaires, ils font tous du travail d'automassage. Pourquoi? Parce qu'ils ont bien compris l'intérêt, si tu veux, de bien récupérer après des séances très lourdes, quoi.
Donc attends, moi j'avais une question justement qui découlait de ça, parce que je relisais tes livres là en ce moment.
Ouais.
Et donc au tout début, tu dis que t'as préféré privilégier l'amélioration de la performance.
Oui.
Par l'entraînement pliométrique, etc., et que tu as vite vu, en fait, le danger des charges lourdes comme au squat, au soulevé de terre, etc. Donc ma question, c'est comment tu t'en es rendu compte, en fait? Et est-ce que tu aurais pas eu de meilleurs résultats en combinant des charges très lourdes avec tout ton entraînement au poids de corps et élastique?
Tu sais, les charges très lourdes, moi je suis un disciple, il y a des années en arrière, de tous les travaux de Cometti, Gilles Cometti, qui a beaucoup influencé le travail de la musculation en France. Donc j'ai énormément travaillé, j'ai fait du squat lourd, je suis monté jusqu'à 180 kg en squat, j'ai passé des barres à 200 kg en soulevé de terre, etc. Et la finalité de tout ça, Rudy, c'est que ça me faisait gagner beaucoup de force, mais que je n'arrivais pas forcément à transférer dans mes gestes sportifs, dans mes activités, qui étaient des activités qui étaient fortement pliométriques, fortement explosives. Et en plus de ça, non seulement j'avais, je me rendais compte de ça, Mais en plus de cette prise de conscience, eh ben je commençais à avoir des problèmes de dos, des problèmes de lombaire, etc. C'est là que j'ai commencé à me dire, c'est pas parce que tout le monde a travaillé de cette manière-là que c'est forcément la meilleure manière de s'entraîner, en fait, Rudy.
Mais la question, donc, j'en ai une autre qui en découle. Ouais, ouais, c'est, si tu n'avais pas eu cette force au départ, est-ce que tu serais arrivé au même niveau d'explosivité que tu as actuellement ou que tu as eu?
Ben, je vais te répondre de manière très claire, Rudy. Oh, ça fait presque... Allez, ça doit faire 4 ans que j'ai pas fait de squat du tout. Je ne fais que du travail. D'abord, je précise une chose, Rudy, je fais pas que du travail au poids de corps. Hein.
Ouais, non, mais c'est parce que c'était pour résumer.
Non, mais voilà, mais j'utilise aussi de temps en temps des haltères, etc., des kettlebells, des choses comme ça. Mais je fais énormément de travail unilatéral, par contre, de manière justement à pouvoir travailler de façon efficace. Puisqu'on parle des jambes là, les jambes, toutes les membres inférieurs, mais tout en ne mettant pas autant de pression que j'ai pu le faire par le passé avec des charges lourdes en squat. Donc, pour répondre de manière très pragmatique, ça fait 4 ans que j'ai pas fait de squat lourd et aujourd'hui je saute aussi haut quasiment que je. Ma distance est la même qu'avant. Hein. Donc, ce qui aussi me permet de dire aujourd'hui, Rudy, avec beaucoup d'assurance, qu'il n'y a pas un système qui marche mieux que notre. Il y a des systèmes qui fonctionnent, il y a des systèmes qui fonctionnent pendant un certain laps de temps et qui parfois arrêtent de fonctionner, soit parce que ils sont trop traumatisants pour ton corps, soit parce que tu t'es trop habitué à eux, etc. Et c'est là en fait qu'il faut être intelligent, pas borné et utiliser d'autres approches de l'entraînement, quoi.
Donc justement, Elsa, on nous dit que il avait lu que tu avais testé le CrossFit pendant un an, que ça avait conduit au surentraînement. Alors, peux-tu donner plus de détails sur ton analyse là-dessus?
D'accord. C'était ma dernière année de compétition en karaté. Et en même temps, je commençais à faire de plus en plus de choses professionnellement parlant. Puisqu'avant j'étais un sportif de haut niveau, j'étais sponsorisé, donc j'avais de l'argent qui tombait tous les mois pour pouvoir pratiquer mon sport sans me préoccuper de comment vivre. À partir du moment où j'ai plus été sponsorisé, il a bien fallu que je commence à bosser en même temps. Je prépare ma reconversion. Donc cette année-là, j'ai essayé de choisir un système d'entraînement qui me permette en fait de pouvoir m'entraîner. Maintenir mes capacités physiques tout en m'entraînant un petit peu moins pour pouvoir gagner du temps et être plus disponible pour travailler, préparer, écrire, etc. Donc la chose que je me suis rendu compte, c'est que pour moi le CrossFit c'est une excellente méthode d'entraînement, notamment de préparation physique. En revanche, quand tu la combines avec il faut pas oublier en fait que le CrossFit c'est en train de devenir presque une approche sportive à part entière. Alors que quand tu es un sportif de n'importe quel niveau, l'approche CrossFit ou l'approche que je développe ou l'approche que n'importe quel préparateur développe, c'est une approche qui vient complémenter en fait ton sport. Donc ça beaucoup de jeunes l'oublient. Donc quand tu fais ton entraînement CrossFit, mais qu'à côté, tu as aussi tes entraînements dans ta discipline sportive, eh bien, le risque, effectivement, c'est, comme le CrossFit, c'est déjà un entraînement qui est très intense, le risque, c'est effectivement de te surentraîner. Et c'est un petit peu ce qui m'est arrivé. Soit parce que j'ai négligé trop le facteur récupération, mais bon, comme... tout le monde fait des erreurs, hein, et moi le premier, quoi.
Ouais, en même temps, le CrossFit, on voit de plus en plus de dérives. C'est que les mecs, en fait, font les circuits. Et en fait, ne comprennent pas qu'en fait, à côté, il faut faire tout un travail de renforcement pour pas se blesser, quoi. Parce que quand on voit des circuits, par exemple, qui sont complètement déséquilibrés, où il n'y a pas de travail, par exemple, de renforcement de coiffe des rotateurs, ou un peu d'arrière d'épaule, ou qui sont que, par exemple, de développé militaire, forcément, ça conduit à la blessure, en fait.
Ah, je suis. Ben, c'était la suite de ce que j'allais te dire, Rudy. C'est qu'effectivement, le gros problème aujourd'hui du CrossFit, c'est qu'en fait, les gens, comme c'est devenu presque un sport à part entière, ils ont leur compétition annuelle, etc. Finalement, on part d'un principe qui était bon, améliorer la préparation physique pour des gens qui avaient des activités extrêmes, militaires, pompiers, etc., qui n'avaient pas forcément accès à beaucoup de matériel. Et là, aujourd'hui, on est en train de passer à une discipline à part entière dans laquelle, en fait, les mecs font toujours plus de volume, toujours plus d'intensité en vue de préparer les compétitions, en vue de se comparer au dernier workout of the day. Et la problématique, c'est qu'effectivement, ils oublient, et pas tous, parce que je connais, moi, des mecs qui font du CrossFit aux États-Unis, il y en a qui ont une approche très cohérente, qui font faire un travail, on va dire, annexe ou connexe, pour justement limiter les blessures, mais c'est pas normal de pouvoir faire 2, 3, 4 fois par semaine un travail d'haltérophilie, etc. C'est pas du tout. C'est, enfin, n'importe quel haltérophile va avoir les mêmes problématiques que les mecs rencontrent en CrossFit aujourd'hui, et vice versa. Donc je suis entièrement d'accord avec toi, et c'est vrai effectivement qu'il y a une forte dérive actuellement du CrossFit. Et c'est d'ailleurs c'est le paradoxe de cette discipline, c'est que peut-être au niveau du marketing, plutôt que de vouloir en faire une méthode du mec qui a la condition physique extrême, et Dieu seul sait que certains gars, ils ont vraiment une condition physique qui est juste hors norme, ils devraient aussi faire de la pub autour du fait que, bon, ben voilà, le CrossFit, c'est ça, mais le but aussi, c'est d'avoir un athlète complet, c'est un athlète qui est pas blessé.
Beaucoup ceux qui connaissent pas, en fait, veulent nous faire croire, en fait, que les champions du CrossFit ne font pas de muscu à côté, en fait. Alors qu'on sait tous, quand tu vois le mec, qui ressemble à... qui est super, quoi. Ouais. Physiquement, c'est une bête, tu le vois sec, super condition physique, équilibré et tout. Tu sais très bien qu'il a fait tout un travail autour. Et en fait, la plupart de ceux que j'en connais, qui sont persuadés que le CrossFit, c'est super, hein, c'est miraculeux, pensent que ces mecs-là, en fait, ils sont comme ça grâce au CrossFit. Et pas à tout ce travail annexe, en fait.
Ouais, non, mais...
C'est là la dérive, quoi.
Ouais, c'est la dérive, c'est effectivement ce qui conduit plein de gens à suivre, ben, comme tu l'as dit, hein, l'entraînement du jour, en oubliant que derrière tout ça, ben, il y a effectivement un échauffement particulier, un travail de gainage particulier, un travail de renforcement musculaire autour, justement pour mieux échauffer, mieux rééquilibrer le corps après les séances, etc. Donc, que te dire, Rudy, si ce n'est que moi, je trouve que c'est une approche qui est extrêmement intéressante en termes de préparation physique, surtout si on n'a pas le temps. Après, je trouve aussi que c'est voilà, que c'est trop limité, parce que bien souvent, on travaille que sur certains axes, qu'autour de certains mouvements clés, comme l'arraché, etc. Alors que un athlète complet, c'est pas uniquement que ça, quoi. On peut travailler dans de multiples dimensions avec des outils bien différents de ceux qu'on retrouve en CrossFit. Mais quoi qu'il arrive, Rudy, les gens ont besoin de structure, les gens ont besoin de s'identifier, les gens ont besoin de se comparer, et le CrossFit leur offre tout ça en même temps.
Ouais, c'est vrai. Ben là, j'ai vu qu'il y avait les qualifications. On suit ça un peu sur le forum. Et donc il y en a qui ont balancé des liens de site, en fait, où les mecs se comparent en fait toute l'année, où c'est vraiment très très bien fait, quoi.
Ouais, non mais.
Et j'étais surpris que ce soit aussi bien.
Au niveau du marketing, c'est super bien fait. Maintenant, voilà, après, bah, tout système peut avoir ses failles, et aucun système n'est vraiment parfait, même si les Américains sont très forts pour te faire croire le contraire.
C'est vrai.
Non, mais c'est vrai.
Non, c'est vrai. On en a vu beaucoup de techniques, de méthodes américaines.
Et puis, une dernière chose que je voudrais dire, pareil, le CrossFit, c'est très bien quand c'est très bien fait. Parce que si tu fais de l'arraché en n'ayant pas appris à faire de l'arraché, eh ben, 6 mois plus tard, t'as une double hernie discale, quoi.
Bien, et surtout qu'il faut dire que l'arraché, c'est pas le plus facile à apprendre.
Exactement. Non, mais ce que je veux dire, voilà, c'est parce que il y a plein de mouvements en CrossFit qui sont assez spectaculaires, Voilà, on en revient, tu sais, toujours à la même chose. Hein. C'est, si ton corps fonctionne pas de manière optimale et que tu veux lui rajouter de la force, de la vitesse, alors que déjà à la base il n'est pas bien aligné, ça augure rien de bon sur le long terme, quoi.
Donc maintenant, question de Mathieu.
Oui.
Alors qu'est-ce que tu penses des cycles classiques comme la PPG, les cycles de force pendant 2 semaines, puis les cycles de masse pendant 3 semaines, puis cycle volume, endurance, etc.
Oui.
Pour toi, est-ce que ce type de planification est pertinent?
Ben moi, j'adore faire des cycles d'entraînement. Donc après, la problématique que j'ai rencontrée, c'était Cometti qui avait beaucoup utilisé ça et il avait pris ça de théoriciens russes de l'entraînement. On appelle ça une planification linéaire, c'est-à-dire qu'on donne la priorité à une à la masse, puis ensuite on donne la priorité à la force, puis on donne la priorité à l'explosivité généralement voilà, la compétition arrive, etc. Le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que très souvent, et notamment quand on parle de préparation physique, il y a de plus en plus d'épreuves qui sont pluriannuelles, c'est-à-dire que tu as plusieurs rendez-vous dans l'année. Et si tu t'entraînes de cette manière-là, en fait, lorsque tu prends de la masse mais que tu passes à la force et à l'explosivité, etc., tu perds les bénéfices de tes cycles précédents. Et aujourd'hui, ce que je préfère utiliser, moi, c'est ce qu'on appelle une planification ondulatoire, dans laquelle, en fait, j'utilise soit sur 3 semaines, soit à l'intérieur même d'une semaine d'entraînement, un peu de travail de masse musculaire, un peu de travail de force, un peu de travail d'explosivité ou de puissance-vitesse, un peu de travail d'endurance de force. Tout ça combiné. Excuse-moi.
C'est justement la question à la fin de Mathieu qui dit, y a-t-il des filières qu'il ne faut surtout pas mélanger pour éviter la contre-productivité? Dans justement ces semaines où tu travailles un peu tout.
Ben Mathieu, si tu travailles dans une discipline qui est une discipline sportive qui est clairement identifiée, par exemple le sprint, j'ai envie de te dire oui qu'il y a des filières qu'il faut privilégier, des filières qu'il faut un peu négliger, etc. Par contre, dans la majorité des activités sportives, je parle toujours de sport. C'est très rare d'avoir une activité qui isole énormément une qualité physique, que ça soit en foot, que ça soit en hand, en rugby, dans les sports de combat. Tu fais appel à toutes les filières, tu fais appel à toutes les fibres musculaires. Il n'y a rien qui est compartimenté, quoi. Et même en endurance, même les mecs qui font de l'endurance, il y a un papier qui est sorti très récemment au mois de janvier, et qui expliquait que les meilleurs trailers, c'est-à-dire les gars qui font des courses de nature assez longues, généralement les meilleurs trailers, c'est ceux qui font tous de la muscu. Pourquoi? Parce que c'est eux qui ont la capacité en fait de générer le plus de puissance pour absorber les côtes, voire ne pas se blesser dans les descentes, etc. Et l'article expliquait clairement que les meilleurs trailers américains, ce sont ceux voilà qui font tous un peu de muscu et qui n'ont pas du tout le même gabarit habituel que le coureur de marathon, etc. Voilà. Donc oui, il faut utiliser différentes filières énergétiques pendant l'entraînement et différents modes de contraction pendant l'entraînement, parce que c'est ce que tu vas rencontrer dans tes activités quotidiennes ou dans tes activités sportives.
Je pense qu'on a bien répondu à cette question. Donc il y a Chuck Morris.
Chuck Morris.
Alors c'est la relève de Chuck Norris, je crois.
D'accord, Chuck Morris.
Qui est un pectus excavatum.
D'accord. C'est un truc sorti de Harry Potter, ça, ou...
Non, mais j'ai regardé justement parce que le nom... C'est quand en fait c'est la cage thoracique qui est rentrée.
Ouais.
Donc, quels sont les risques inhérents à cette particularité physique? Et quelle grande thérapeutique proposes-tu pour lutter contre les effets néfastes qu'induisent ce fameux thorax en entonnoir?
Alors déjà, il faut mobiliser la cage thoracique et il faut mobiliser l'insertion des côtes au niveau de la colonne vertébrale, au niveau des vertèbres thoraciques, de manière à redonner de la mobilité. Ça, c'est la première des choses. Très souvent, ce sont des problématiques qui sont liées à des développements au niveau respiratoire un peu dysfonctionnels pendant qu'on était bébé ou quand on était enfant. Et le corps, voilà, s'est protégé comme il a pu, il a compensé comme il a pu. Et la résultante, quand tu grandis, c'est que ton corps a trouvé des compensations au niveau justement de ce schéma respiratoire, mais anatomiquement parlant, c'est pas le développement ne s'est pas fait correctement. Donc il faut redonner de la mobilité. Après, tout dépend l'âge auquel on s'y prend. Si on s'y prend à 30 ans, c'est plus compliqué que si on s'y prend à 15 ans. Donc mobiliser la cage thoracique. Pour ça, tu peux te faire un travail sur rouleau d'automassage, tu peux utiliser des classiques en muscu du style pullover, écarté halter, etc. Tu peux faire un travail d'étirement tout en combinant l'étirement et la respiration forcée avec des haltères, notamment sur des écartés couchés, justement pour aider à étirer tous les muscles intercostaux et petit à petit essayer de redresser ton thorax, quoi.
Donc ensuite je sais la question de Fabien D pour y revenir après. Ouais. On a déjà parlé de Razor Ramon qui dit: est-ce qu'il y a des exercices de musculation que tu considères comme vraiment néfastes pour le corps et qu'il faudrait éviter? Ah, question intéressante.
C'est la question à 20 000, celle-là. des exercices vraiment néfastes pour le corps? Tous ceux qu'on n'exécute pas correctement, ou tous ceux qu'on exécute avec des dysfonctions à la base. Si tu fais des squats alors que t'as pas une bonne souplesse de cheville, le squat c'est pas bon pour toi. Si tu fais des squats alors que tu stabilises pas bien tes hanches et ta colonne vertébrale, alors le squat et le soulevé de terre sont pas bons pour toi. Si tu as des douleurs de genoux, alors le leg extension est le dernier exercice à utiliser. Si tu as des problèmes d'épaule, tu as tout intérêt à faire attention au travail de développé couché et plutôt passer du temps à remuscler ta ceinture scapulaire et tous tes rotateurs, etc. Bref, il n'y a pas de mauvais exercices. Il y a souvent des exercices qui sont soit mal utilisés, techniquement parlant, soit souvent des exercices qui sont utilisés par des gens qui ont déjà une blessure, un passif, et c'est souvent comme ça qu'on se blesse, quoi. Forcément, si tu mets une charge de 100 kilos sur tes épaules alors que tu as une double hernie discale, le squat va pas être terrible, quoi. Voilà. Mais si tu es bien aligné, si tu as bien été coaché, si tu as un bon gainage, il n'y a pas de mouvements particuliers qui sont mauvais. Les seuls mouvements qui sont mauvais, ce sont ceux qui provoquent des douleurs, notamment des douleurs au niveau articulaire. Là, il faut se poser des questions. Est-ce que je fais mal mon mouvement? Est-ce qu'éventuellement, j'ai pas le gainage nécessaire pour faire le mouvement, etc. Toujours écouter la douleur, finalement. La douleur, c'est pas un ennemi, c'est un ami. C'est elle qui te permet de dire que quelque chose ne va pas.
C'est d'ailleurs un de tes articles que t'as mis sur ton site sur la douleur, non?
Exactement, c'est parce que souvent les gens me posent des questions du même style et c'est et voilà, j'ai voulu donner une réponse, enfin différents éléments de réponse en développant justement cet article sur la page d'accueil de mon site. La règle de la non-douleur, qu'est-ce que c'est, pourquoi elle est importante, qu'est-ce qu'elle permet et qu'est-ce qu'elle ne permet pas, voilà. Et finalement, tu sais, ton corps n'est pas bête, hein, Rudy, hein. Il te fait toujours, quand il a mal, c'est juste parce qu'il te fait parvenir un message. Parfois parce que tu ne l'as pas écouté auparavant. Mais, voilà. Si j'ai mal, c'est que quelque chose ne va pas. Donc, il faut chercher qu'est-ce qui va pas dans le corps.
Donc, on a Fabien D qui nous demande comment concilier la fonte et une musculation athlétique. Faire des entraînements freestyle certains jours et fonte d'autres jours, comment faire pour la récupération?
Alors, ça c'est une bonne question. Ce que je te suggère, c'est que musculation athlétique, mon livre ou mon DVD, ce sont des méthodes qui utilisent des exercices globaux, des exercices très souvent basés sur la force pure ou l'explosivité. Donc tu auras plutôt intérêt à les utiliser en début de semaine quand le système nerveux est frais et utiliser plutôt la fonte pour une deuxième partie de semaine, soit pour faire un travail plus isolé, un travail plus classique de body, travail plus segmenté au niveau des membres, soit tout simplement parce que le travail avec fonte sera un tout petit peu moins intense au niveau du système nerveux et justement favorisera la récupération. Si par exemple tu fais deux séances de muscu athlétique en début de semaine, disons le lundi et le mercredi, eh bien une séance de fonte bas du corps à 60-70% le vendredi et une séance de fonte haut du corps à 60-70% le samedi, ça te permettra non seulement de progresser, mais en plus de favoriser une certaine régénération des tissus. Voilà.
Donc, alors, il y a Colt qui nous demande ton avis sur le reverse hyperextension.
Ouais.
Alors, utile, dangereux ou indispensable?
Alors.
Au choix.
Ouais. OCM. Je vais répondre de la manière suivante. Pour moi, le reverse hyper, c'est un mouvement qui est super fonctionnel pour toute la chaîne postérieure. Mais comme tout, il faut que ça soit bien fait. Donc, même avec toutes les vidéos d'exo que j'ai postées ou lors de mes stages, je m'aperçois que beaucoup de gens font toujours mal des exos basiques, comme par exemple les planches de gainage en appui sur les coudes ou simplement des pompes ou des tractions. Du fait qu'ils ont un schéma moteur de base qui est déficient, c'est-à-dire qu'à la base, ils ne savent pas, on leur a pas appris à contracter les bons muscles au bon moment, à placer le corps d'une certaine manière, ce qui entraîne des déséquilibres à long terme, etc. Alors si tu rajoutes des mouvements plus complexes, comme le reverse hyper, le soulevé de terre, le squat, le développé couché, où tu rajoutes finalement plus de charges, tu vas directement à la catastrophe. Donc, reverse hyper, super, super mouvement fonctionnel, encore une fois, à condition que ça soit pas par ça que tu commences. Il faut construire le corps avec des mouvements peut-être moins hard, veiller à ce que tu aies déjà le gainage nécessaire, et puis ça, par contre, ça peut devenir un mouvement extrêmement intéressant pour quand tu as déjà un certain niveau, quoi. Faut pas nous oublier que dans le West Side Barbell, là, les trucs de Louis Simon, les mecs ils suivent une logique particulière, hein. Tout le monde n'arrive pas au gym le premier jour et met 200 kilos sous une barre, quoi, tu vois.
Ouais.
Donc, ça, les jeunes, ils l'oublient, quoi, tu vois, ils voient toujours les gros costauds avec le sang qui coule du nez parce qu'ils ont 900 kilos sur les épaules, mais pour arriver là, ça s'improvise pas, quoi, tu vois, il y a des années d'entraînement avec tout un apprentissage, toute une logique, et ça, trop de jeunes ont tendance à l'oublier, quoi. Trop de jeunes veulent brûler les étapes, mais tu le sais.
Ah oui, patience et persévérance, comme je dis toujours, sont le secret.
Absolument. Mais dans la société dans laquelle on vit, c'est le dernier conseil que tu veux entendre, quoi. Les gens veulent tout de suite. Mm. Ça a jeté un blanc, la rue.
Ah ouais, j'ai été déconcentré, on m'a déconcentré. Je suis déconcentré par les animaux.
Ah, d'accord. Quels animaux?
Là, qui est à côté de moi.
Ah, d'accord.
Alors, question de Riggs.
Ouais.
Alors, lui, il voudrait concilier des séances haut du corps de musculation haute densité.
Ouais.
Avec des exercices travaillant le haut du corps avec musculation athlétique.
Ouais.
Et soit tout de suite après la séance, un exercice de type fractionné en course à pied.
Ouais.
Afin de faire travailler le bas du corps.
Donc, qu'est-ce que j'en pense? Est-ce que c'est...
Voilà, est-ce que c'est possible déjà et conseillé au sein de la même séance de faire, de mixer les deux types d'exercices, donc qu'il y a dans haute densité et musculation athlétique, et en même temps de faire du fractionné à la fin?
Ok. Alors, Riggs, le but de ma collection, c'est à la base de ma collection de livres, de DVD, c'est de proposer des outils variés mais équilibrés, notamment des circuits autour des chaînes musculaires, qu'on peut suivre selon une méthodologie réfléchie, quelque chose que j'ai mis du temps à mettre en place, soit que tu suis comme dans les livres, soit que tu adaptes une fois que tu as compris l'ensemble du système. Donc, en prenant par exemple des circuits, des livres ou des DVD, en les assemblant selon tes besoins. Donc ça, c'est vraiment très très important. Donc la première des choses, c'est y a pas de souci, oui, à prendre des choses d'un livre ou d'un DVD, de le mixer avec autre chose, ça pose aucun problème. Après, ce qu'il faut prendre en considération, c'est que quand on parle d'entraînement ou de préparation physique, rien n'est figé. Pour en revenir au CrossFit américain, c'est ce que le CrossFit t'enseigne en fait. Ce qu'il faut pas oublier, c'est que pendant des années, on a fait tourner la prépa physique en essayant de la faire coller le plus possible à la physiologie de labo, c'est-à-dire
comme on avait dit avec Aurélien Broussal, à la pratique, quoi, à ce qui se passait sur le terrain.
Exactement.
L'empirisme, voilà.
Exactement. Mais le problème, c'est que le but d'un labo, quand tu fais une expérience de labo, il y a des règles, il y a des protocoles d'essai, afin que l'expérience soit reproductible, afin qu'on puisse faire des comparaisons avec des groupes tests, etc. Quand tu prends le sport de compétition, la vraie vie ou dans des situations extrêmes de combat, de survie, tu t'aperçois qu'on est très très loin d'un labo, des filières énergétiques aérobie, anaérobie, etc. Quand tu es au fin fond de l'Afghanistan, que tu es canardé de toutes parts, tu te poses pas la question si tu viens déjà de courir 4 minutes avec 40 kilos sur les épaules et ton barda. Parce que la seule chose qui t'incombe, c'est de pas te prendre une bastos, quoi. Non, mais c'est la vérité, tu vois.
Ouais, c'est vrai, ouais.
Et tu te poses pas de questions si t'es lactique, pas lactique. Et ça, les gens l'oublient en fait. Je me souviens d'un reportage à l'époque du 11 septembre sur les pompiers américains qui avaient monté les tours jumelles pour essayer d'aller sauver des mecs et les survivants, les pompiers survivants, ils ont témoigné que ce jour-là, en fait, les ascenseurs marchaient pas, donc ils ont monté je sais pas combien de marches à pied avec plus de 40 ou 50 kilos de matos sur les épaules. Et beaucoup ont dit qu'ils pensaient pas humainement que c'était possible, mais qu'ils étaient tellement habités par l'envie d'aller sauver ces gens, parce que c'était leur mission, et bien qu'ils se sont pas posé la question, en fait.
Ah, ils n'ont pas eu le choix.
Ils n'avaient pas le choix, exactement. Donc, finalement, ce que tu apprends de ces situations extrêmes, c'est que le labo, il t'enseigne des choses, mais il t'enseigne surtout que le labo, il essaie de vérifier des règles physiologiques déjà établies. Mais ces règles physiologiques, elles bougent, tu vois. Rien n'est figé. Moi, pendant des années, j'ai fait, tu vois, une discipline, le karaté artistique extrêmement explosif, et j'avais des gamins, après les compétitions, ils continuaient à faire des coups de pied sautés pendant 5 heures, quoi. Et pourtant, c'était de la pliométrie, c'était des mouvements extrêmement acrobatiques, et n'importe quel physiologiste, il serait venu là, il aurait dit, mais c'est pas possible, les stocks de créatine phosphokinase sont épuisés, il n'y a plus de glycogène, comment ces gamins continuent à sauter, quoi.
C'est ce qu'on disait, c'est que régulièrement, ce qui est démontré en labo n'est pas démontré sur le terrain, quoi.
Absolument. Donc finalement, le labo, c'est très bien, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la réalité du terrain. C'est la seule chose qui compte, quoi. Et le gros problème, c'est que les gens veulent tellement être rassurés qu'on préfère toujours s'orienter vers
ce qu'ils veulent entendre.
Exactement, vers quelque chose qui a été vérifié.
Bah ouais, qui a été, oui, vérifié, entre guillemets.
Entre guillemets, absolument. Et c'est comme ça que les dogmes naissent, tu vois.
Bah ouais, c'est ce que je vois bien, malheureusement.
Ben voilà. Donc pour moi, oui, tu peux aller courir après avoir fait une séance de muscu. Pour le haut du corps, la course à pied fractionnée va faire travailler tes jambes d'une manière très très fonctionnelle. Voilà. Maintenant, si tu veux avoir les mêmes quadriceps qu'un bodybuilder, c'est pas forcément la meilleure stratégie. Par contre, si tu veux avoir les jambes d'un coureur de 800, etc., avec le torse d'un gymnaste, eh ben, t'as tout intérêt à faire les deux en même temps, ouais, tout à fait.
Donc ensuite, justement, pour continuer sur les cuisses, on a Archimède qui nous demande « Que penses-tu du travail en chaîne cinétique ouverte, donc comme l'extension, le leg curl, pour la santé du genou et la posture ?»
Ok. Ça c'est le vieux débat sur chaîne ouverte ou chaîne fermée. Moi, de façon globale, je préfère le travail en chaîne fermée, particulièrement pour les jambes, parce que dans la majorité des gestes et dans le quotidien, on a un appui dessus. Mais rien n'est ni totalement bon ni totalement mauvais. Le tout est de comprendre l'anatomie de manière globale et pas uniquement au niveau local, parce que sinon tu loupes la façon dont le corps fonctionne réellement. Une fois de plus, c'est ce que je reproche à l'anatomie qui est très localisée. On étudie uniquement ce qui se passe au niveau du genou, par exemple. Donc, de manière plus précise, le leg extension, ben, ça crée de grosses forces de cisaillement au niveau de l'articulation du genou. Donc, je l'utilise pas vraiment avec aucun athlète, moi.
Et le leg curl?
Le leg curl, c'est un mouvement qui est peut-être un peu plus bénéfique parce que en règle générale, beaucoup de sportifs sont déficients au niveau des ischio-jambiers. Maintenant, je vais préférer des mouvements comme le leg curl avec extension des hanches, ce que tu peux faire sur un Swiss ball ou ce que tu peux faire allongé sur le dos. Les jambes sont tendues, tu as les talons en appui sur une serviette ou une surface glissante. Tu vas d'abord contracter tes fesses, donc favoriser l'extension de la hanche, et ensuite tu vas ramener les talons vers les fesses, sans perdre le gainage au niveau de tes hanches.
Ah ouais, bonne idée, je voyais pas cet exercice, là je viens de le comprendre.
Voilà, et donc en fait, c'est un petit peu le concept derrière le reverse hyper, quoi, tu vois. Dont on a parlé tout à l'heure. Et ça, c'est un très très bon exercice qu'on peut faire chez soi avec déjà pas de matos, parce que la simple résistance au sol va être assez costaud. Le frottement, si tu veux, du tissu sur le sol va déjà créer de la résistance. Ça va te permettre d'avoir un bassin qui est bien gainé. Et donc de travailler une fois de plus sur une chaîne globale, à savoir mollets, ischio-jambiers, fessiers et muscles paravertébraux, plutôt que d'isoler le travail uniquement que sur les ischios. Mais bon, tout le monde sait que je suis pas un grand fan de l'isolation. Donc
justement, dans musculation haute densité, tu n'utilises que des exercices unilatéraux pour le travail des quadriceps, sous forme de fente. Alors, est-ce que c'est pour diminuer la pression sur la colonne vertébrale ou pour tirer profit du travail de l'équilibre sur les stabilisateurs du genou?
Ouais, alors, donc dans musculation à densité, effectivement, j'utilise beaucoup de travail unilatéral de manière à améliorer la proprioception de toute la chaîne, à savoir toute la proprioception au niveau de la cheville, au niveau du genou, au niveau de la hanche et au niveau de la colonne vertébrale. Améliorer le gainage autour du bassin et la colonne, qui sont très souvent déficitaires, c'est-à-dire manque de contrôle de rotation interne du genou, manque de contrôle au niveau du positionnement du bassin à cause de vitesse de contraction du carré des lombes un petit peu déficitaire, etc. Après, je l'utilise pour améliorer la force fonctionnelle, car dans la majorité des sports, les actions se déroulent très souvent en unilatéral et très peu finalement les deux pieds à la fois. Et enfin, je l'utilise pour diminuer la pression sur les disques intervertébraux. Alors, quand tu as 18 ans, ben, tu te fous de tous ces points que je viens d'énoncer. Mais quand tu arrives à la trentaine, ou parfois avant, si tu n'as pas de chance, et quelques centaines de milliers de répétitions de soulevés de terre, de squats ou de presses, là, tu te dis, si j'avais fait plus gaffe avant, quoi. Et dans musculation haute densité, c'est cette alternative que je propose. Parce que tu fasses des squats d'une jambe à 60 kilos avec deux haltères ou à 200, c'est pareil pour la force, c'est pareil pour le développement musculaire, mais c'est absolument pas pareil pour ta colonne et tes disques et tes hanches. Donc, ça n'empêche pas que tu peux faire de temps à autre du squat lourd quand tu t'entraînes avec du travail unilatéral. Par contre, l'inverse n'est pas vrai. Il y a très peu de gens qui sont capables de faire un travail unilatéral en s'entraînant en permanence avec du travail bilatéral, quoi. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas le gainage nécessaire, ni le contrôle neuromusculaire nécessaire pour ni la proprioception nécessaire pour maintenir l'équilibre.
Alors, il nous reste une petite dernière question de Maxence. Alors, qui nous demande ? Alors, je me demande comment améliorer la dextérité de ma main faible ainsi que de ma jambe faible. Quel exercice effectuer ? Y a-t-il des conséquences sur le développement musculaire suite à ce déficit de dextérité ?
Oui.
En effet, on a pu souvent lire qu'il pourrait s'agir d'un déficit de force, or cela me laisse dubitatif, étant quasiment aussi fort des deux côtés, mais n'ayant pas vraiment le même développement.
D'accord. Donc c'est vraiment d'un point de vue du développement musculaire, Maxence, que apparemment on comprend toi et moi ta question.
Ouais, c'est ce que je comprends aussi en fait.
Alors, moi je te pose une autre question, Maxence. Que se passe-t-il quand tu te blesses, quand tu as une entorse, une fracture et que tu utilises des béquilles? Tu compenses en prenant appui sur l'autre jambe ou avec un autre bras, et au bout de quelques jours, tu t'aperçois que la fesse de ta jambe d'appui, elle est beaucoup plus développée que finalement, tu es en train de prendre de la masse musculaire. Et c'est exactement pareil avec un membre sain, un muscle sain. Parce que ce qu'il faut que tu visualises, c'est que si tu utilises tous les jours, par exemple, ta main droite, il est normal en fait que ton avant-bras droit, ton bras droit, ton épaule droite soient plus musclés en fait que la gauche, pour la bonne et simple raison que tu utilises en fait attends, je trouve plus mes mots là, Rudy.
T'es au régime ou quoi?
Hein?
T'es au régime?
Non, je suis en pleine digestion. J'ai goûté avant de répondre. Non, du coup, quand tu es par exemple droitier et que tu utilises en permanence ta main droite, toutes les contractions musculaires, elles sont beaucoup plus efficaces de ce côté-là. Et qui dit contraction musculaire plus efficace, dit développement musculaire plus efficace.
Mais est-ce que d'un côté, par exemple, c'est pas dangereux? Quand on a par exemple donc un côté plus gros que l'autre ou plus fort que l'autre, de faire des exercices donc bilatéraux, donc par exemple comme le développé couché, on n'a pas tendance justement à forcer plus d'un côté et à plus favoriser la blessure.
Absolument, je suis entièrement d'accord avec ça. Et c'est pour ça, encore une fois, que je préfère le travail unilatéral.
Donc ensuite, on a une question de Guillaume, qui à mon avis, on peut y répondre avec un corps sans douleur.
Oui.
Alors, il aimerait une intervention sur tout ce qui est dissymétrie gauche-droite. On parle souvent de tout ce qui est lié au déséquilibre entre antagonistes, mais moins souvent pour ceux qui ont pour origine une jambe plus grande que l'autre, une épaule plus basse que l'autre. Alors que pas mal de douleurs peuvent en découler. Tu réponds pas mal, à mon avis, dans un corps sans douleur.
Je pense qu'il faut absolument que tu lises un corps sans douleur, et si tu l'as déjà lu, c'est Guillaume, c'est ça ?
C'est ça, c'est Guillaume, c'est.
Je te conseille de le relire, parce que je développe ça abondamment dans le livre. Mais finalement, quand t'as une épaule plus haute que l'autre, une jambe plus courte, etc., c'est toujours des déséquilibres agonistes-antagonistes. Seulement, au lieu de les regarder devant, derrière, il faut les regarder côté droit et côté gauche, c'est tout. Donc... Il faut regarder le corps en trois dimensions. Donc, généralement, on parle de déséquilibre agoniste-antagoniste entre les chaînes antérieures, celles qu'on voit devant le corps, et les chaînes postérieures, celles de derrière. Mais il existe aussi des chaînes latérales, des chaînes en spirale. Et finalement, ben, tous ces dérèglements de chaînes aboutissent justement à des choses un petit peu au niveau anatomique, comme les jambes trop courtes, une épaule trop haute, etc. Mais ça, j'en parle et j'en reparle dans un cours sans douleur de manière très claire et très abondante, quoi.
Donc attends, moi j'avais donc pour ceux qui n'avaient pas su, en fait, tu es maintenant désormais partie de la team Super Physique.
Eh ouais, j'ai de la chance. Et bientôt, je vais même poster ma première photo avec mon super t-shirt Super Physique.
Est-ce qu'on aura l'occasion de t'y voir au salon avec?
Je serai pas au salon.
Ah, tu viens pas cette année?
Non, je suis pas cette année, Rudy. Je suis en stage le week-end du salon, donc ça aurait été avec grand plaisir, mais voilà, on peut pas être partout à la fois.
Donc en même temps, je veux rappeler qu'il reste quelques places disponibles pour tes stages d'été.
Il reste quelques places dispo pour mes stages d'été, effectivement. Et puis pour ceux qui sont intéressés, il y a le DVD Total Band Training qui sort d'ici fin mars, dispo sur mon site, et qui abordera beaucoup de questions sur l'entraînement avec les bandes élastiques, des circuits d'entraînement avec les bandes élastiques, etc. Comment je m'entraîne quand je pars en voyage, comment s'entraîner quand tu es dans une chambre d'hôtel avec tes élastiques. Voilà, je développe tout ça dans le DVD, avec toujours la même logique, un corps sans douleur, un corps équilibré, un corps athlétique et un corps performant.
Donc tout ça sera disponible sur le site, parce que je dis toujours ton site, donc c'est christophe-cario.com.
Absolument, merci.
Pour ceux qui ne savent pas. Donc rendez-vous là-dessus pour acheter ce nouveau DVD.
Exactement.
Donc je tiens à dire quand même que je suis vachement surpris en fait des questions qui t'arrivent comparé aux autres podcasts. En fait, c'est des questions vachement intéressantes, je trouve.
Ben,
ils sont vraiment poussés, quoi. On voit vraiment que c'est des mecs qui sont investis, qui ont vraiment bien lu tes livres, je trouve.
Ouais. Ben je suis content aussi. Ça prouve voilà que les choses évoluent et que visiblement soit j'influence positivement certaines personnes, ou à défaut de les influencer positivement, je fais réfléchir et je soulève des débats. Donc c'est intéressant quand il y a des débats. Ça permet d'avancer, de faire avancer les gens, etc. Donc moi je trouve ça très très positif et je suis content qu'il y ait des questions de ce style. J'espère qu'il y aura un autre podcast.
Ah bah ça j'en doute pas vu... Vu l'évolution de ta rubrique où il y a de plus en plus de messages.
Et puis, il va falloir aussi que je t'envoie le nouvel article aussi.
ouais, ça, il n'y a pas de souci. Donc, il y a eu l'article ce week-end sur les abdos qui est sorti.
Ouais.
Donc, on attend évidemment l'article suivant.
Mais c'est prévu, c'est prévu, Rudy. Ne t'inquiète pas.
Ouais, ça marche. Bon, bah, je pense que nous avons fait le tour pour ce podcast.
Génial.
Donc on va souhaiter à tous une bonne lecture de ce podcast.
Ouais.
En espérant qu'il vous plaise. Ce que je ne doute pas un instant, étant donné les réponses que tu as données, Christophe.
Ben écoute, merci beaucoup Rudy. Puis une fois de plus, longue vie à Super Physique et à ses lecteurs et auditeurs. Et à très très bientôt. Et bon entraînement à tous.
Voilà. À bientôt.
Salut, bye bye.